بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre ce programme concernant les grands signes de Qiyam. Et dans les mois précédents, Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité donc de traiter du premier grand signe, du premier grand signe de Qiyam, ce qu'on appelle Ashrat al-Sa'a al-Kubra, le premier des grands signes de Qiyam, c'est-à-dire la venue de l'imam Mehdi. Et on avait vu quelle était l'identité de cette personne, quelle était l'origine de Al-Mehdi, quelle sera la situation du monde avant la venue d'Imam Mehdi. Et on avait parlé d'un fitna, un degré de trouble, des moments de trouble que connaîtra la Ummah, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, beaucoup de flottements également dans les pays musulmans avant que Imam Mehdi ne fasse son apparition. Et subhanallah, il y a des fois où il y a des choses qui se passent, il y a des événements dans le monde qui se passent. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte que, au même moment, nous lisons des versets du Coran ou des hadiths. C'est comme si que ces hadiths-là ont été écrits par un journaliste il y a un jour ou deux jours en fonction des événements qui sont en train de se passer. Alors que ce sont des textes qui datent de 1500 années. Alors, il y a, alhamdulillah, on lisait dans les Riyadus Salihin, dans les jardins des vertueux, un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam mettait en garde les sahaba en ces termes. Arrivera une époque, satalqauna ba'di athara, arrivera une époque où vous verrez de la part de vos dirigeants beaucoup d'oppression, beaucoup d'injustice. Et là, les sahaba, ils ont demandé au prophète d'Allah, que devons-nous faire à cette époque-là, qu'est-ce qu'on devra faire? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit en ce sens de ne pas changer son comportement. Le musulman se doit de rester correct envers Allah, de faire ce qu'il se doit de faire, et cette injustice ne doit pas détourner le musulman de l'obéissance envers ses dirigeants. L'injustice qui sera vécue par beaucoup de musulmans de la part de leurs dirigeants à une certaine époque ne doit pas pousser les musulmans à se retourner contre leurs propres dirigeants, mais ils doivent faire preuve de patience et ils doivent s'en remettre à Allah et demander à Allah d'accorder la guidée à leurs dirigeants pour qu'eux aussi retournent vers le droit chemin. Bien sûr, on avait donné une explication un peu plus ample hier concernant un dirigeant, le Amir. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui est là de manière légitime, bien sûr. Et subhanallah, ça c'est quelque chose que ça fait partie des mu'jiza, des miracles que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé il y a 1500 années. Alors qu'à l'époque où le prophète alayhi salatu wassalam prononce ses paroles, c'est lui le imam, le rasoul, le nabi, mais également le imam. C'est lui qui dirige le pays des musulmans. Donc à son époque, il n'y a strictement aucune injustice. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, sait pertinemment que lorsque les califes vont diriger, lorsque Abu Bakr et Umar, Uthman, Ali, un jour dirigeront, sans que le prophète, alayhi salatu wassalam, les ait nommés, mais il a toujours bien fait comprendre à la Oumma qui étaient les gens les plus importants dans la communauté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était confiant qu'à l'époque de ces califes, il n'y aurait pas d'injustice. Et personne, à l'époque où ces paroles sont prononcées, ne pouvait imaginer qu'un jour, il y aura une époque où les musulmans souffriront de l'oppression de la part de leurs dirigeants. Et en commentaire, al-athara, le terme al-athara de la hadith, c'est au-delà du zulm, c'est pas uniquement l'oppression. Les muhadithines expliquent que c'est quand le wali ou l'amr, le dirigeant d'un pays, abuse des biens des musulmans, abuse des biens de la population et l'utilise à des fins personnelles, tout en laissant la population dans la difficulté. Subhanallah, c'est comme si c'était un éditorial ou un article qui a été écrit la veille par un journaliste, mais quand on se rend compte que cela date de 1500 années, c'est exactement le fil des événements que nous avons vécu ces dernières semaines à travers différents pays musulmans. Et notre prophète avait annoncé que viendra une époque où il y aura des dirigeants qui agiront de la sorte envers leur population. Alors donc, pour revenir à l'introduction, dans un moment de conflit total, d'un moment où il n'y aura plus de stabilité de la Ummah, il y aura un degré de zulm, d'oppression inégalé, là Allah Azza wa Jal enverra sa nusrat, là Allah subhanahu wa ta'ala enverra son aide par le biais de Al-Mahdi. Et on a vu également quelles seront les différentes missions d'Imam Mahdi, réunir à tous les musulmans sous un même drapeau, sous une même bannière, la bannière du tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et par son travail, Allah Azza wa Jal donnera la izzat à cette umma. Izzat, honneur que la umma aura perdu depuis maintenant très 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 longtemps. Et Al-Mahdi également, on avait vu qu'il subira l'affront de certains dirigeants également de différentes régions du monde qui souhaiteront que Al-Mahdi disparaisse immédiatement. Mais à chaque fois qu'il y aura une armée qui se lèvera contre Imam Mahdi, Allah Azza wa Jal lui accordera toujours la victoire. Comme notre prophète alayhi salatu wa salam a toujours eu la victoire sur ses ennemis, même quand Badr ils étaient à 100, eux ils étaient à 300, même quand Uhud ils étaient à 300, eux ils étaient à 900, etc. etc. Allah Azza wa Jal a toujours accordé son aide au prophète alayhi salatu wa salam. Pareil, Allah Azza wa Jal aidera Al-Mahdi parce que c'est un homme par le biais duquel Allah subhanahu wa ta'ala décidera, a décidé d'élever la Umma avant la fin du monde. Alors que jusqu'à maintenant, la Umma sera rabaissée au plus bas niveau, et là aussi, c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal, et ce sera la conséquence directe des mauvaises actions des musulmans, et cela s'enchaîne avec les petits signes de Qiyam, qu'on a vu que les musulmans accompliront tel péché, c'est-à-dire qu'ils auront, ils prendront une telle distance avec Allah Azza wa Jal, ils franchiront, mais sans peur, sans gêne, sans haya, les limites du haram et les conséquences directes, ce sera donc l'humiliation totale sur la Umma, et ensuite Allah Azza wa Jal va envoyer son aide par la venue de Al-Mahdi. Et le dernier point qu'on avait abordé, et malheureusement l'enregistrement a été effacé accidentellement, en fait c'est l'appareil qui a grillé, Wallahu musta'an, c'était les différents affrontements qu'il y aura à l'époque de Al-Mahdi. On avait vu avec des termes très pesés, quels seront les continents, quels seront les dirigeants qui déclareront la guerre à Al-Mahdi, et comment il répondra à ces hostilités, et comment à chaque fois Allah Ta'ala lui accordera la Nusrat, jusqu'à la dernière des grandes batailles. La dernière des grandes batailles, c'est Fathul Qustantiniyya, la conquête de Constantinople. Et ça, c'est quelque chose que le prophète alayhi salatu wasalam avait annoncé, qu'un jour, un musulman, un qa'id, un dirigeant, il pourra arriver jusqu'à Constantinople. D'accord ? Et donc, Al-Mahdi, parmi les derniers combats d'Al-Mahdi, ce sera le fait qu'il arrivera jusqu'à Constantinople. Et on avait parlé également d'une alliance. On avait parlé d'une alliance entre les musulmans et une autre grande nation, une autre grande religion monothéiste. Et il y aura donc une alliance contre un ennemi commun. Qui ça, Wallahu A'lam, contre un ennemi commun, jusqu'à ce que les musulmans, avec ses alliés, ses alliés auront la victoire par la grâce d'Allah, mais après la victoire, le camp allié, donc ils retourneront la victoire, ils donneront comme symbole de la victoire leur, comment pourrait dire ça, avec des mots pesés également, ce qui résume un peu leur adoration, qui va à l'encontre de nos principes de monothéisme, et là il y aura un affrontement de musulmans et ces personnes-là, et c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Malhamatul Kubra, vraiment la grande bataille finale. Ce sera vraiment la grande bataille finale où on comptera les ennemis par millions. J'ai plus les chiffres là, il y a peut-être encore les chiffres dans le livre qu'on avait étudié sur Al-Mahdi. On parle de je ne sais combien, si je ne me trompe pas, plus de 10 000 armées différentes, 10 000 drapeaux différents, et sous chaque... Ah voilà, on a exactement les chiffres. Qaraba million, à peu près 1 million de personnes, c'est-à-dire 12 fois 80 000, c'est ce qui fait à peu près 960 000 personnes. Ça, c'est les combattants de l'armée des... On allait dire l'armée adverse. Hada. Et Allah Azza wa Jal accordera la victoire à Al-Mahdi. Et à la fin de cette grande bataille, alors que les musulmans, ils sont en train de, on dirait pas savourer, mais de constater leur victoire, alhamdoulilah, qu'ils ont eu le dessus, c'est des gens qui voulaient les exterminer également, d'accord ? Là, ils entendront la nouvelle que Ad-Dajjal a été envoyé par Allah. Que Ad-Dajjal est sorti et que Ad-Dajjal se trouve auprès des musulmans. Et là, Al-Mahdi, il enverra immédiatement 10 cavaliers. Alors, il faudrait qu'on revoie parce que, subhanallah, c'était des hadiths exceptionnels et magnifiques. Al-Mahdi enverra 10 cavaliers pour vérifier de l'authenticité de cette nouvelle. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, raconte « Inna ad-dajjala qad khalafahum fi dhararihim » À la fin, le prophète salam dit que « Et Al-Mahdi va envoyer 10 fawaris, 10 cavaliers. » قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. Traduction. Ce qui fait arabe, collège de Dieu. Inch'Allah, ça viendra. Allah yaftah alayk, inch'Allah. Mais le prophète dit que je connais exactement leur nom. Le prophète dit je connais déjà le nom de ces cavaliers. Je connais le nom de leur papa, de leurs parents, hein, c'est-à-dire de quel nasal ils sont, de quelle origine. Je connais le nom de ces cavaliers, le nom de leur père, wa alwana khuyulihim, et je connais même la couleur de leurs chevaux. Hum khayru fawarisin ala dhahri ardi yawm idhin, dit à cette époque-là, ce seront les meilleurs cavaliers qu'il y a sur la surface de la terre. Ce seront les meilleurs combattants, les meilleurs cavaliers que Al-Mahdi enverra en mission pour voir si réellement Ad-Dajjal a été envoyé. Et à la suite, notre version dit que lorsque ces gens-là iront, ils se rendront compte que la nouvelle n'était pas fondée, mais très peu de temps après, réellement Ad-Dajjal, très peu de temps après, Ad-Dajjal va sortir. Et là, ce sera le début d'une autre histoire. Tout d'abord, c'était l'étape de Al-Mahdi contre les injustices pour rétablir Al-Adl, la justice sur le dunya, et redonner la izzat à la Ummah. Maintenant, on va passer à une autre étape de la mission d'Al-Mahdi, c'est Imam Mahdi contre Ad-Dajjal. Mais Imam Mahdi ne sera pas seul pour affronter Dajjal. Au début, oui, mais ça, on verra par la suite. Allah Azza wa Jal, quelques temps après, enverra une autre nusrat, une autre aide divine, hein, donc qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala enverra donc Al-Masih Isa alayhi salam, et c'est lui donc qui viendra à bout de Ad-Dajjal. Donc déjà là, nous pouvons faire, par ce récit, nous pouvons faire le lien entre Al-Mahdi et la venue de Dajjal. Donc c'est après, c'est après cette grande bataille que Dajjal viendra réellement dans la Ummah. Et Dajjal qui est déjà présent, contrairement à Imam Mahdi, que personne ne sait s'il est déjà né, Wallahu a'lam, où se trouve-t-il, est-ce qu'il est déjà né, est-ce qu'il est enfant, est-ce qu'il est adolescent, Wallahu a'lam, parce qu'on n'a pas d'indication non plus sur l'âge où Al-Mahdi recevra sa mission. On peut penser, c'est comme les Anbiya, l'âge de la sagesse qui est 40 ans, mais on n'a pas d'indication. Et là, comme on parle de aqidah, de croyance, si on ne connaît pas, on ne se prononce pas. D'accord ? Par contre, Ad-Dajjal, ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà né. Ad-Dajjal, ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà là, il est déjà présent, il est dans un endroit particulier, et lorsqu'Allah, Azza wa Jal, lui donnera l'ordre d'apparaître sur le dunya, là, uniquement, Ad-Dajjal fera son apparition. Et Ad-Dajjal, Allahu A'lam, fait partie des min sharri ma khalaq, fait partie des mauvaises créatures, des mauvaises choses qu'Allah Ta'ala a créées. Parce qu'Allah Ta'ala, il a créé les choses qui sont bien. Allah Ta'ala a créé Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. Allah Ta'ala a créé notre prophète alayhi salatu wa salam, Muhammad. Allah Ta'ala a créé Isa alayhi salam, Jésus, Moïse, Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala a créé les cieux, la terre, les choses magnifiques, les bienfaits. Mais Allah Ta'ala a créé également des choses plus compromettantes, des choses plus obscures. Entre autres, Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé Shaytan. Allah Ta'ala a créé le nafs qui pousse l'homme à accomplir des péchés. Allah Ta'ala a créé des plaisirs illicites, hein, qui sont difficilement face auxquels l'homme a du mal à résister. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam a visité l'enfer, et lorsque Jibril alayhi salam a vu quels sont les shahawat, quelles sont les passions, quels sont les péchés qui poussent l'homme, quels sont les péchés qui ont été mis pour tenter l'homme, hein, et qui conduisent malheureusement l'être humain directement vers l'enfer, l'ange de Béni alayhi salam s'est dit que jamais un être humain ne pourra s'échapper de l'enfer. Connaissant la faiblesse de l'homme, et connaissant quel est le degré de plaisir qu'il y a de les péchés, de les haram, Jibril s'est dit, il n'y aura pas un être humain qui résistera à ces choses qui sont haram. Donc ces plaisirs-là ont été également créés par Allah, et Dajjal fait partie des choses qu'Allah Ta'ala a créées. On peut se demander pourquoi est-ce qu'Allah a créé Dajjal, sachant qu'on verra que par le biais de Dajjal, beaucoup de gens quitteront l'islam. Allah musta'an. À cause de Dajjal, beaucoup de gens quitteront l'islam. Mais il faut savoir également que par la venue de Dajjal, beaucoup de musulmans retrouveront un degré de foi solide. Beaucoup de gens retrouveront la hidayah, des mu'minines retrouveront la hidayah uniquement en entendant parler de Dajjal, en entendant parler des miracles de Dajjal. Alors la réponse, elle est très simple, pourquoi Allah Ta'ala a créé Dajjal? C'est la même réponse, pourquoi Allah Ta'ala a créé Shaitan. Shaitan qui s'est fixé comme mission d'emmener avec lui le maximum de gens vers l'enfer. Lorsque Shaitan a été chassé du ciel, il a demandé à Allah Azza wa Jalla, قَالَ رَبِّي فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et Allah Ta'ala lui a accordé ce délai, قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Il a demandé à Allah Ta'ala en ce sens un délai. Le délai, c'était pour quoi? Pour égarer le maximum de gens. Et Allah Ta'ala lui a accordé un délai. Le délai de Shaitan, c'est quand? C'est jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espoir, jusqu'à ce que le soleil se lève du mauvais côté. Parce que tu as du mal à distinguer l'est de l'ouest. lorsque le soleil se lèvera de l'autre côté et lorsque la bête sortira. Eh bien, ça, ce sont les derniers événements avant la destruction, avant la destruction de ce dunya. Jusque-là, le Tawba pourra être accepté. Et ça, c'est, cela marque la fin de la mission de Shaytan. Donc, Allah a accordé à Shaytan le temps, un délai. Il y a un délai énorme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'être de créature sur ce dunya. Tout comme Allah a accordé à Shaytan certaines armes. Et parmi les armes qu'Allah a accordé à Shaytan, c'est quoi? C'est, Iqbal, la musique, le chant. Le chant fait partie des armes qu'Allah Ta'ala, des atouts qu'Allah Ta'ala a accordé à Shaytan, et par le biais du chant, de la musique, quelle que soit la forme de cette musique, le Shaytan, il détourne malheureusement beaucoup de gens du droit chemin, avec tout ce qu'il y a à travers la musique, les messages qui sont passés, Wallahu Musta'an. Mais d'une manière générale, on voit qu'Allah Ta'ala crée des choses qui donnent l'impression que ces choses-là vont à l'encontre de la volonté initiale d'Allah. La volonté initiale d'Allah, c'est quoi? C'est que tous les musulmans entrent au paradis. Est-ce qu'Allah Ta'ala veut qu'un musulman entre en enfer? Non. Un tel point qu'Allah Ta'ala multiplie les occasions pour nous pardonner. Il y a les nuits importantes, les Laylatul Qadr, etc., etc. Les moments importants, les heures où les doigts sont acceptés, les endroits où le tawbah est accordé à chaque musulman. Et Allah Ta'ala cherche tous les moyens pour nous accorder ce tawbah et nous faire entrer au paradis. Mais paradoxalement, Allah Ta'ala crée également des obstacles. Mais ces obstacles-là, ils sont là uniquement comme une épreuve. Allah Ta'ala éprouve l'homme par le biais de Shaytan, par le biais du nafs, par le biais des passions et par le biais de Dajjal. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, on va dans tous les sens, on ne respecte pas le menu, notre prophète alayhi salatu wassalam a décrit Dajjal, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit Dajjal comme étant le plus grand fitna qui existe sur terre. Jamais depuis la création des cieux et de la terre, Allah Ta'ala n'a envoyé une source de turpitude, de trouble, qui va déstabiliser le mu'min autant que Dajjal. Rien n'est comparable au fitna de Dajjal. Jamais il y a eu dans l'histoire de l'humanité un fitna plus fort, plus dangereux que Dajjal. Et à un tel point que le prophète a dit que si un musulman entend que Dajjal est arrivé dans un endroit, surtout il ne faut pas aller le voir. Notre prophète nous a enseigné qu'il faut lire, ça c'est à la conclusion du chapitre, entendre qu'il faut lire Suratul Kahf, le Yom Jum'a, le vendredi, pour être protégé contre Dajjal. Mais notre prophète a bien dit que jamais un musulman ne se risque à aller voir Dajjal. Comme on l'a déjà répété dans d'autres assemblées, Dajjal n'est pas un cirque. On ne va pas voir qu'est-ce qu'il va faire comme événement, comme miracle et tout. Non, parce que notre prophète veut nous faire comprendre que le pouvoir qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Dajjal dépasse à un tel point l'entendement, dépasse à un tel point la logique humaine, que ce sont des choses exceptionnelles. C'est un pouvoir incroyable qu'Allah Ta'ala va accorder à Dajjal, qu'une personne observe ce que cet homme sera capable de faire et on craint que la personne quitte son iman immédiatement. Simple exemple, Dajjal viendra voir un musulman et il dira que atteste que c'est moi ton créateur. Bien sûr, la personne refusera et Dajjal va lui faire voir un signe incroyable. Il va ressusciter son papa et sa maman qui sont enterrés. Et cette personne va voir son père et sa mère ressuscités, se mettre debout sur leurs deux pieds et dire « Oh mon fils, atteste que c'est lui notre Dieu. » C'est un degré de fitna énorme. Et ça, c'est un pouvoir qu'Allah Ta'ala a accordé à Dajjal, mais pour un laps de temps précis. Ce n'est pas lui qui est puissant, non. C'est Allah qui lui donne ces armes-là pour éprouver au maximum, le maximum de gens. Et beaucoup parmi les koufars le suivront, principalement certaines personnes. Et malheureusement, parmi les musulmans, il y aura beaucoup qui vont, Wallahu musta'an, nasallallahu alayhi wa sallam, qui vont succomber au fitna de Dajjal. Donc, ça, c'est une petite présentation. On va essayer de recadrer un petit peu, Inch'Allah. Alors, Ibn Kathir, rahimahullah, décrit Dajjal. Il dit Huwa rajulun min bani Adam. C'est un être humain de la descendance de Adam alayhi salam. Khalaqahu Allah ta'ala. لِيَكُونَ مِحْدَةً لِلنَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Cette créature, Allah Ta'ala lui a donné la vie. Allah Ta'ala l'a envoyée sur la terre pour éprouver les gens. Quand ça? À la fin des temps. C'est vraiment à la fin des temps. فَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Et par la venue de Dajjal, beaucoup de gens seront dans la perdition, mais il y aura également beaucoup de gens qui trouveront la guidée par la venue de Dajjal. Alors on va décortiquer définition d'Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il dit que huwa rajulun min bani Adam. Déjà, on comprend que Dajjal est un être humain. Il a l'apparence d'un être humain. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas ce qu'on appelle un cyclope avec un œil. Très souvent, on représente. Tapez Dajjal dans Google Images, vous allez voir, la plupart du temps, on vous donne un cyclope, ou alors une créature avec un œil au milieu. Dajjal n'a pas un œil, il a deux yeux comme n'importe quel être humain. Il a certainement un de ses yeux, bien sûr, est anormal, mais il y a peut-être des gens de ce dunya qui ont un œil exactement comme Dajjal, sans pour autant être Dajjal, d'accord? Donc déjà, il faut enlever de l'imaginaire collectif que Dajjal est un monstre, et comme un diable ou je ne sais pas quoi. Non, c'est avant tout un être humain. Et c'est là que c'est plus dangereux. Parce que si dès le départ, on voyait en lui des choses exceptionnelles, on comprendrait qu'il y a un problème. D'accord? Mais à la base, c'est un être humain, une apparence physique à peu près normale. Et c'est quelqu'un d'en plus de très bien constitué. Et d'où la source de fitna. Quand un homme normal, comme vous et moi, accomplit des choses incroyables, c'est là qu'on voit, c'est là que c'est une source de fitna. On a dit également que Allah Ta'ala le enverra à la fin des temps. Donc, comme on a dit en introduction, c'est à la fin de la mission d'Al-Mahdi. C'est lorsque Al-Mahdi, il sera à la fin de sa mission, et qu'Allah Ta'ala envoie Dajjal, et juste après, Allah Ta'ala envoie Isa alayhi salam, et Imam Mahdi également, il va mourir, et là, il restera qui? Isa alayhi salam et Dajjal. Et c'est Isa alayhi salam qui se chargera d'éliminer Dajjal, après qu'il ait accompli sa mission. Parce que Dajjal aussi a une mission. Créé par Allah pour un but précis, il doit accomplir sa mission, et quand sa mission sera terminée, Allah Ta'ala reprendra ses pouvoirs, et là il sera tué normalement comme un être humain. Et à un moment clé où on voit où Dajjal n'a pas un pouvoir absolu, là on brasse un peu la totalité du programme là, mais c'est juste pour avoir quelques idées précises sur je ne dis pas notre invité, mais sur le thème dont on va parler, à un moment donné, lorsque Dajjal sera aux frontières de Madina Munawwara, il y aura un jeune qui le défiera. Un jeune qui le défiera, et ce jeune-là fera partie des meilleures personnes de cette ummah. Je ne dis pas Allahumma ja'alni minhum, on ne pourra pas être cette personne, c'est quelqu'un qui fait partie d'Ahl al-Madina. Et Dajjal tuera ce jeune homme, et Dajjal le tranchera dans le sens de la longueur. Et pour que les gens voient bien que cette personne a été tuée, Dajjal marchera entre les deux parties de cette personne. Et ensuite, Dajjal redonnera vie à cet homme. Dajjal, bi-idhnillah, par la puissance qu'Allah lui donnera, il redonnera vie à cette personne qui vient de trancher en deux, et cette personne réellement retrouvera la vie. Et l'objectif de Dajjal, c'est quoi? C'est que les gens constatent son pouvoir, et que les gens disent que tu es vraiment Dieu. C'est toi le créateur. Et ce jeune homme-là, lorsqu'il se réveillera, Dajjal dira, alors, est-ce que maintenant tu acceptes, tu reconnais que je suis ton créateur? Et là, ce jeune homme dira que depuis que, maintenant, il va dire que maintenant, je suis encore plus persuadé que c'est toi, Dajjal. Quand notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait annoncé, il y a très longtemps, qu'un homme viendra, qui correspond exactement à ta description, et qui accomplira tel miracle, et ce miracle-là, ce miracle-là a été annoncé exactement par le prophète alayhi salatu wassalam, et là j'ai encore plus de yakin que tu es un kazzab, tu es un menteur, tu es Dajjal et non pas notre créateur, notre Rabb, notre Khali. Et là, jusque-là, on a vu le pouvoir de Dajjal. Et là, Dajjal décidera de retuer cet homme une seconde fois. Mais là, Allah Ta'ala reprendra le pouvoir. Là, Allah Ta'ala ne lui accordera pas le pouvoir de redonner la mort. Allah lui a accordé la possibilité de donner la mort une fois et de donner la vie une fois. Après, c'est fini. Lorsqu'il essaiera une autre fois de donner la mort à cet homme, non, Allah Ta'ala décidera qu'il n'ait plus ce pouvoir. Et là, les gens vont voir également que ce n'est pas un Dieu, les gens qui douteront encore, parce qu'il ne dispose pas de la vie et de la mort comme il le souhaite. C'est un pouvoir qui lui est confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Mihnatan linnas, on a expliqué en introduction qu'il a été envoyé sur ce dunya comme épreuve. Ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, de min shari ma khalaq, les choses mauvaises qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et Allah ta'ala égarera beaucoup de gens par le biais de Dajjal. Comme on a dit, beaucoup de musulmans et beaucoup de ceux qui n'ont pas iman, ils trouveront. Et puis il y a des gens qui l'attendent aussi. Il y a des gens qui attendent, on ne dira pas quel est le surnom de Dajjal pour d'autres personnes, mais il y a des communautés qui attendent impatiemment la venue de Dajjal, qui sera leur qaïd, qui sera leur dirigeant. Voyez ? Et paradoxalement, beaucoup de gens trouveront la guidée. Comment ? Comme on expliquait tout à l'heure, hein, entre autres, l'exemple typique, c'est ce jeune homme. Il dit que, on retrouve le hadith, « Wallahi mazdadtu fika illa basira » Maintenant, j'ai encore plus de conviction, j'ai vu que c'est toi, Dajjal, comme notre prophète nous avait annoncé, et comme lui, il y aura beaucoup de gens qui entendront parler de Dajjal et qui verront, qui entendront que telle chose ont été accomplies comme le prophète avait annoncé, et ils auront un retour de iman, ils auront yaqin, et le iman reviendra au top, et ils auront la guidée par la venue de cet homme. Alors, ce qui est particulier, on terminera avec ça, ce qui est particulier avec Dajjal, c'est quoi ? 25 minutes. Normalement, on termine à 30 minutes, Inch'Allah. Ce qui est particulier avec Dajjal, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres événements de ce dunya, c'est qu'il n'y a pas eu un prophète qui ait envoyé sur ce dunya sans qu'il n'ait eu un certain quota de science, de certaines informations sur Dajjal, et qu'il ne les transmet à sa communauté. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, hadith de سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله ما هو أهله ثم ذكر الدجال النبي صلى الله عليه وسلم s'est présenté à nous, hein, il a fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, et ensuite il s'est mis à nous raconter l'histoire de Dajjal. Et le prophète a dit inni, le prophète a dit que je vous mets en garde contre cet homme, wa ma min nabiyyin illa wa qad andarahu qawma, et il n'y a pas un prophète qui est venu avant moi sans qu'il n'ait mis sa communauté en garde contre les fitnas de Dajjal. Laqad andarahu Nuhun qawmahu. Nuh alayhi salam a mis en garde son peuple. Et pourquoi le prophète alayhi salam cite l'exemple de Nuh? Pourquoi? Il y a une réponse. Pourquoi le prophète ne dit pas que Adam alayhi salam a expliqué à son peuple, hein, que Dajjal viendra un jour? Pourquoi le prophète commence par Nuh alayhi salam? Parce que c'est le premier prophète qui prêche le tawhid et qui proscrit le polythéisme. C'est à l'époque de Nuh alayhi salam qu'il y a eu le premier shirk. Avant Nuh alayhi salam, c'est-à-dire à l'époque de Adam alayhi salam et de ses enfants, il n'y a jamais eu de shirk sur la terre. C'est à partir de l'époque de Nuh alayhi salam que Shaytan a induit les gens en erreur, hein, en leur faisant croire qu'on se doit de donner de l'importance aux défunts, à tel point qu'ils ont fini par faire des représentations de leurs hommes pieux, hein, de leurs personnages importants qui sont décédés. Ils se couvaient jusqu'à ce qu'ils finissent par se prosterner. Donc, le shirk est apparu dans la communauté de Nuh al-Islam. Donc, c'est pour ça que l'exemple de Nuh al-Islam est donné. C'est le premier prophète qui a mis en garde sa communauté contre la venue de Dajjal. « Walakin sa'akoulu lakum fihi qawlan lam yakulluhu nabiyun liqawmi » Mais moi, je vais vous dire quelque chose qu'un prophète n'a dit à sa communauté. Innahu a'war. Sachez qu'il est a'war, comment on dit ? Borgne. Wa inna Allah laysa bi'a'war. Mais sachez également que votre créateur, lui, n'est pas borgne. Dajjal, il a certains pouvoirs, mais les Mufassirs expliquent, hein, que, subhanallah, regardez le paradoxe qu'il y a en cet homme. Il va prétendre être créateur, il va faire des miracles, donner la vie, donner la mort, faire tomber la pluie, ramener la nourriture après des années de sécheresse, mais il a en lui des signes physiques qui permettent à n'importe qui de le reconnaître, et ça, il n'est pas capable de changer. Il est capable de faire pousser récolte, de donner la vie au bétail qui est décédé, de donner la vie à des hommes qui sont morts, de leur redonner la mort, de faire tomber la pluie, mais il n'est pas capable de changer cet œil qu'il a, et d'enlever sur son front les inscriptions qu'on verra. Ça, c'est Allah qui limite son pouvoir. Donc le prophète alayhi salatu wasallam dit, on revient au hadith, que sachez que Ad-Dajjal est, il dit qu'il est mieux, sachez que Ad-Dajjal est borgne, mais que votre Seigneur, lui, n'est pas borgne. Et le prophète alayhi salatu wasallam savait beaucoup plus de choses sur Ad-Dajjal que n'importe quel prophète. Lorsqu'il y a eu le voyage nocturne, lorsque le prophète alayhi salatu wasallam a retrouvé les autres prophètes à Bayt al-Maqdis. Vous savez, il y aura beaucoup d'événements à Bayt al-Maqdis à la fin du temps. Alhamdulillah. Et donc, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a une discussion avec les prophètes. Et parmi les sujets qui étaient abordés, c'était les signes de la fin des temps. Et la plupart des prophètes ne savaient quoi répondre. À l'exception de Isa, alayhi salam,
qui a donné quelques informations qu'il avait, lui. Et Isa alayhi salam, on sait bien qu'il aura un rôle important, parce que c'est lui qui revient à la fin des temps, c'est lui qui tue Dajjal et c'est lui qui demande à Allah la nusra contre, comment dire, Ajuj ou Ma'juj. Donc il a un rôle clé à la fin des temps. Mais celui qui connaissait plus de akhbar, qui avait plus d'informations sur les signes de la fin des temps, c'était qui? C'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est sa umma, c'est sa communauté qui un jour va vivre ces grands signes de Qiyama et qui va connaître ces sources de turpitude, ces sources de fitna. Et comme on a dit tout à l'heure, le plus grand fitna qu'Allah Ta'ala ait pu envoyer sur ce dunya. Et c'est une fitna historique. Quand le prophète Hassan dit que, hadith de Hisham bin Amir Ansari, Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, ma bayna khalq Adam ila an taqoum as-sa'atu fitnatun akbaru min fitnati Dajjal. Akhrajahu Ahmad. Il n'y a pas un fitna depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un fitna plus important, plus dangereux que la venue de Ad-Dajjal. Et on a dit que c'est un événement historique parce que c'est lui qui va provoquer ces dernières batailles et à partir de cela, il y aura la destruction de ce dunya. Il a un rôle clé dans la destruction de l'humanité. Et après sa mort, il y aura bien sûr le règne de Isa alayhi salam et quelques événements. Mais Dajjal, hein, il va clôturer vraiment l'histoire de l'humanité. Et après lui, il restera quelques temps. Et après, le dunya sera détruit. Je pense qu'on en a assez dit. Hein, on voulait juste terminer avec une petite description, juste pour voir de quoi on va parler la prochaine fois. Hein. Donc, on pourrait faire un résumé de ce que les hadiths présentent sur Dajjal, on pourrait dire que c'est un homme qui apparaîtra à la fin des temps, après que les musulmans auront conquis Constantinople. Et Dajjal sortira de la région de Asfahan. Asfahan. Quand on faisait le Hajj, vous voyez, parfois il y a des gens, vous voyez, ceux qui écrivent le nom de leur ville sur leur vêtement. Hein. Asfahan, un jour, portez attention. Il viendra de cette région et il y aura une catégorie de personnes particulières qui va suivre Dajjal. Fayyab, et au début, Dajjal apparaîtra comme étant un roi. C'est pas dès que quand il arrive, il dit que je suis Dajjal, je suis votre Dieu. Non. Au début, il sera considéré comme un malik, comme un roi. Et quelque temps après, il prétendra être un envoyé de Dieu, un émissaire de Dieu. Et quelque temps après, Summayad da'ir rububiyya, et quelque temps après, hein, il commencera à dire que c'est lui, Dieu, c'est lui le créateur. Et Dajjal, alayhi la'natullah, aura également, hein, parmi les facultés qu'Allah lui accordera, il pourra se déplacer, mais dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit de ce dunya, que ce soit un continent, que ce soit un pays, que ce soit un village, on pourrait dire une île également, il n'y a pas une région où Dajjal ne foulera pas de ses pieds, de ses sales pieds, on pourrait dire. Hein. Il n'y a pas une région du monde où Dajjal donc n'ira pas, à l'exception de Haramain, à l'exception de Makkah et Madina. Car auprès de ces villes, Allah Azza wa Jal a posté des malaïka avec des sabres qui attendent Dajjal et ils l'empêchent de s'approcher de Madina. Ça, c'est des choses, des détails, des choses, des points qu'on verra par la suite. Mais là, on brasse un petit peu, Inch'Allah, on brasse un petit peu largement. Et Dajjal restera 40 jours sur ce dunya. Mais ce ne seront pas des jours composés de 24 heures. Yawmun Kasana, le premier jour, sera comme une année. Et on verra, en temps voulu, Inch'Allah, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Est-ce que c'est comme on avait vu dans les petits signes de Qiyama, hein, qu'il n'y a plus de baraka, le temps passe vite, c'est au sens figuré, ou alors c'est réellement une année sans lever et coucher du soleil? On essaiera de voir les explications des savants là-dessus, et également ce que les scientifiques disent, qu'il est possible qu'à une époque, il y aura une époque peut-être que, hein, vous savez avec tout ce qu'il dit sur l'inversement des pôles, etc., etc., que peut-être même à une époque, il n'y aura plus de lever, de coucher du soleil. Ça peut correspondre à ça. Wa yawmun kashahr, le deuxième jour sera comme un mois. Wa yawmun kajum'a, le troisième jour sera comme un. Comme une semaine, ne pas se tromper, jum'a, ça ne veut pas dire vendredi. Dans la langue arabe, jum'a veut également dire une semaine. Wa sa'iru ayyamihi kayyamin nas, et le reste des jours seront des jours normaux. Ce qui nous ramène à une année, deux mois et 15 jours. Et Allah Ta'ala lui accordera beaucoup de pouvoir, ça aussi on verra, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala envoie Isa alayhi salam, et Isa alayhi salam tuera de ses propres mains Dajjal avec une lance à un moment précis, à un endroit précis, à un jour précis, à une heure de la matinée précise, et Allah Ta'ala fera en sorte que les gens voir le sang de Dajjal couler afin que les gens se rendent compte que ce n'était qu'un homme, que ce n'était qu'une créature. Alors, Inch'Allah, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est, là on a brassé vraiment large, hein, on verra que veut dire Masih. Savons également que Isa alayhi salam, on l'appelle Al-Masih, Masih ibn Maryam. En français, on dit le Messie, d'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle Dajjal également le Masih? On verra que dans la langue française aussi, on a le Christ et l'Antichrist, d'accord? On verra également le sens littéral de Dajjal. Que veut dire Dajjal? On verra, Inch'Allah. Parmi les points qu'on doit aborder, hein, la description physique, ça c'est un point important, la description précise, hein, physique donc, de Ad-Dajjal, et également, surtout ses yeux, hein, c'est ce qui est apparent, également ce qui est écrit sur son front, de quelle manière, et comment est-ce qu'on pourra voir ce qui est écrit sur son front. Également, dans certaines sources, on a même trouvé la description des parents, du papa et la maman de Ad-Dajjal. On verra également ce hadith très connu, hadith authentique, hadith al-Jassas, hein, lorsque les sahaba ont vu Dajjal dans un endroit particulier, et ils ont rapporté au prophète, al-Sallam, et lui ont donné la description, et que le prophète a approuvé que cet homme-là est Dajjal, et qu'il attend son heure pour sortir. On verra également quels sont les événements qui doivent absolument avoir lieu avant la venue de Dajjal, et parmi ces événements, le plus important, bien sûr, c'est la conquête de Constantinople. Également, quelle sera la situation de Madina Munawwara avant la venue de Dajjal, et quelle sera la situation de Baytul Maqdis avant la venue de Dajjal. Et on verra également qu'il y aura une grande période de Qahth wal Maja'a, une grande période, à peu près trois périodes de famine. Quelque chose, c'est du jamais vu, ça ne concerne pas une région du monde, mais c'est une famine qui sera généralisée, et là, ce sera dur, parce que après trois années où il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de récolte, Dajjal va venir avec la pluie, il claque les doigts et la pluie tombe, il ordonne à la terre de faire sortir des plus belles récoltes et de ressusciter le bétail qui est mort, et tout ça l'obéira. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un degré de fitna difficile quand quelqu'un est en train de mourir de faim depuis trois ans et qu'il voit un homme qui lui apporte toutes les richesses possibles, très, 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 très difficile aux gens de résister à son fitna. Et hein, c'est quelque chose d'évident. Lorsque Dajjal apparaîtra à une époque où les gens n'en parleront plus. Vous avez parmi les signes de la fin des temps, c'est que sur les mimbar, les gens ne parleront plus de Dajjal, de Mehdi, des signes de la fin des temps. On verra dans un cinquième point d'où, de quel endroit géographique exactement sortira Dajjal. Et maintenant, éventuellement, à peu près, qui sont les gens qui sont avec lui. Et quelques miracles qu'il accomplira par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de temps va rester sur ce dunya? Et là, encore une fois, l'armée de Dajjal. On va voir également que les terres saintes seront protégées contre Dajjal. Et enfin, comment se protéger nous-mêmes contre Dajjal, même si ce ne sera pas notre époque. Qu'est-ce que le prophète a.s. a conseillé à chaque musulman de lire pour être protégé contre Dajjal? Et enfin, la venue de le retour de Isa a.s. qui tuera Dajjal. Allah Ta'ala donne tawfiq donc de reprendre avec un peu plus de constance donc ces programmes. Qu'Allah nous accepte nos efforts, donne tawfiq de comprendre, de faire un mal, et qu'Allah augmente notre iman de jour en jour. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.